19h sur France Culture. L'heure de vous retrouver, Frédéric Martel, bonsoir.
Merci à vous.
Dans quelques instants, tout de suite même, Soft Power, vous continuez à nous parler d'Amérique et de Barack Obama.
Absolument. Dans ce week-end spécial consacré à l'Amérique et à New York, on va partir un petit peu un flashback, finalement, nos années Obama, avant un autre moment clé, cette nuit, le débat à 4h du matin, qui s'annonce assez serré.
On en a parlé avec Russell Banks il y a quelques instants, oui.
Absolument. Ça sera, c'est quoi, 4h du matin?
Oui, je crois.
Vous serez réveillé?
Non, je crois pas, non. Je le regarderai. Vous savez, maintenant, il y a un truc magnifique qui s'appelle Internet.
Horaire.
Ça permet de re-regarder les choses juste après, voilà.
C'est en direct de l'Université de Washington, de Saint-Louis, dans le Missouri, voilà. Eh bien, bonne.
À bientôt, à la semaine prochaine, Frédéric.
À dimanche prochain, tout de suite, sur France Culture, Soft Power.
What up, New York City?
Un week-end à New York sur France Culture.
Soft Power, Frédéric Martel.
Soft Power, Frédéric Martel.
This is why I'm hot, hot. This is why, this is why, this is why I'm hot, hot.
France Culture, 19h, bienvenue dans Soft Power, donc en direct jusqu'à 20h, nos années. Obama, tel est donc le titre de cette émission ce soir. 2009-2017, en 8 années de mandat, Barack Obama a profondément changé la politique, la vie politique américaine par son style, par ses idées, par sa personnalité même. Le premier président noir, faut-il le rappeler, de l'histoire des États-Unis, Obama restera sans doute un géant, se hissant au rang d'un Kennedy ou d'un Clinton, même si son bilan peut faire aussi débat avec ses ambitions déçues, sa politique étrangère pour le moins chaotique, notamment au Moyen-Orient. C'est tout cela que nous allons évoqué ce soir en nous concentrant, comme le veut le cadre même de cette émission, sur le soft power, la culture, le numérique, bref, l'influence des États-Unis et de Barack Obama à travers le monde durant les deux mandats de ce président américain. Avec nous en direct dans le studio de France Culture pour retracer nos années Obama, Pierre Mélandry, spécialiste des États-Unis. Vous avez été longtemps professeur des universités à Sciences Po Paris et vous publiez dans quelques jours aux éditions Perrin Le siècle américain. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Rokhaya Diallo, vous êtes essayiste, chroniqueuse chez nos confrères de RTL et animatrice de BET, la chaîne américaine Black Entertainment Television, désormais accessible en France sur toutes les box notamment. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Et nos deux chroniqueurs ce soir, Marjorie Paillon de France 24 et Pierre Aski.
Yes, Frédéric Martel.
De Rue 89. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
Tout au long de Soft Power ce soir, nous écouterons des archives, des musiques et des discours pour tenter de comprendre les années Obama autour de quatre parties. D'abord, les ambitions et les espoirs suscités par Obama lors de son élection en 2008. Ensuite, la politique culturelle et le rapport aux artistes de ce président tellement épris de pop culture. Dans une troisième partie, nous évoquerons sa politique numérique depuis le président 2.0, le président digital, jusqu'à l'affaire Snowden. Enfin, nous conclurons sur le soft power Obama, un mélange de hard et de soft, de pouvoir dur militaire traditionnel et de pouvoir plus soft, plus culturel, ce qu'on a appelé le smart power. Cette émission est réalisée ce soir par Philippe Baudouin avec en régie Clément Daté. Elle a été préparée par David Laveau et bien sûr, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au mot-clé Soft Power, où nous postons toutes les références des archives que nous diffusons, les articles, les livres à lire, les musiques, bref, toutes les sources à retrouver au hashtag Soft Power. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Medium, sur Facebook ou vous abonner à notre podcast et bien sûr nous suivre en direct sur France Culture. Ça commence.
Oh,
À l'instant, chanté par Aretha Franklin, America, c'était le 20 janvier 2009, le jour même de l'investiture du président Obama, au commencement de son tout premier mandat. America, c'est aussi le titre du catalogue de l'exposition de l'artiste Glyn Ligon, avec lequel je commence cette émission en forme de coup de cœur, comme chaque semaine. Glyn Ligon est né en 1960 dans un quartier à la dérive du Bronx. C'est un artiste noir qui s'est fait connaître en mêlant à ses peintures des citations de discours de personnalité. Ainsi, il a utilisé des phrases de Jean Genet, de Jesse Jackson, ou a repris des slogans de la marche noire The Million Men March de 1995 à Washington. Il a également repris le slogan des marches civiques au temps de la ségrégation dans le sud des États-Unis durant les années 60 en référence à Martin Luther King. I am a man, comme il l'explique lui-même, une œuvre qui est à la fois une citation, qui est en noir et blanc, et qui a été décisive pour son travail à venir.
It's a quotation, it's black and white, it uses text. So a lot of the things that would come in my later work are sort of generated by this painting.
Scott Rodkoff, le nouveau conservateur en chef du Whitney Museum à New York, a consacré un long texte dans ce catalogue America sur l'œuvre de Glyn Ligon. Il montre comment, en faisant des peintures avec des textes, Ligon se réapproprie une tradition littéraire afro-américaine. Quand j'ai commencé à être un artiste, la peinture fut l'un des rares espaces où je me suis senti libre, explique l'artiste, lequel rend hommage à Malcolm X. Il n'hésite pas à employer le terme colored ou même niggers, textuellement négro à la Jean Genet, et peint de magnifiques tableaux sombres, presque noirs, qu'il intitule « White ». On admire ses photos de mains levées en protestation ou ses images intitulées « We are black and strong » ou encore « When black wasn't beautiful ». Ses autoportraits ressemblent à des photos de casiers judiciaires. En 2009, dès son arrivée à la Maison Blanche, Barack Obama a fait venir une œuvre importante de Glyn Ligon intitulée « Black Like Me No. 2 » pour ses appartements privés. L'artiste préféré d'Obama aurait même été l'un des premiers à employer l'expression « post-blackness », l'après question noire. Et cette semaine, alors même que ses peintures dépassent déjà parfois le million de dollars, des œuvres de Glyn Ligon ont été vendues chez Christie's à Londres. Le catalogue America de Glyn Ligon est édité par le Whitney Museum et les éditions Yale University Press. Émission Nos années Obama, ce soir en quatre parties, en direct sur France Culture, la culture, le numérique, le soft power. Et pour commencer, retour sur les espoirs suscités par l'élection de Barack Obama en 2008 et ses ambitions lorsqu'il rentre à la Maison Blanche en janvier 2009. Espoir, ambition, premier tour de table, Rokhaya Diallo, Marjorie Payon, Pierre Aski. Et on commence par vous, Pierre Mélandry, sur Obama qui entre donc à la Maison Blanche.
Oui, c'est évidemment un très grand moment. Une sorte de nouveau départ. Il représente au fond deux choses. La première, c'est quand même l'émergence d'une Amérique nouvelle. Et il faut voir que cette Amérique est au fond le produit à la fois du mouvement des droits civiques, du militantisme, mais aussi des grandes lois de 64-65, précisément sur l'égalité des droits, et de la loi de 65 sur l'immigration. On a un profond changement démographique qui se résume très simplement. En 80, quand Reagan est élu, l'électorat blanc, c'est 88% de l'électorat. Lorsque Obama est élu, ce n'est plus que 74%, et ça continue d'ailleurs de diminuer. Ça, c'est le renouvellement. Il y a une tradition, par ailleurs, chez Obama, qui se rattache à une longue série d'hommes politiques américains, de leaders, qui ont en quelque sorte pour mission de rendre l'espoir au moment où le pays paraît le plus en difficulté.
Donc or, Roosevelt, c'est le cas. Kennedy...
Absolument. Il y a déjà eu Lincoln, enfin Roosevelt, Kennedy, Reagan.
Reagan à sa façon.
Oui, Reagan tout à fait dans cette tradition-là. Et Obama, évidemment, est élu... à la fois parce que il lance ce qui est vraiment un désir très fort de l'opinion, un appel à l'unité. On se rappelle sa formule, il n'y a pas une Amérique noire et une Amérique blanche, il n'y a pas une Amérique latino, une Amérique asiatique, il y a des États-Unis d'Amérique.
Je vous propose de l'écouter justement, c'est à la Convention démocrate à Boston, en 2004, la première fois où il emploie cette formule.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
La formule célèbre de Barack Obama lors donc de la convention démocrate à Boston en 2004, 4 années donc avant sa victoire, où il défend déjà une Amérique multiculturelle, certes, mais unie, ni libérale, ni conservatrice, ni noire, ni blanche, ni latino, ni asiatique, parce qu'il n'y a qu'un seul pays, les États-Unis d'Amérique. Pierre Aski.
Oui, je crois que ce qui est important, c'est de se souvenir quand même du moment où Obama est élu. On est à la fin de la période Bush. Les deux guerres dans lesquelles les États-Unis sont englués, l'Afghanistan et l'Irak, et un discrédit des États-Unis dans le monde qu'on n'avait pas connu peut-être depuis la guerre du Vietnam. Et Obama incarne l'espoir, non seulement à l'intérieur des États-Unis, dans l'unité de la nation américaine, mais aussi un renouveau américain dans le monde. Et j'ai retrouvé un article de Paul Kennedy, qui est un historien très, très connu aux États-Unis, publié dans le New York Times juste après l'élection, et qui est intitulé « Le retour du soft power ». Et qui explique à quel point les réactions à l'élection d'Obama dans le monde sont telles qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un nouvel âge d'or dans lequel les États-Unis, rien que par l'aura de leur unité interne, vont diffuser leurs valeurs et leur puissance dans le monde en renouant avec l'idéal un peu mythique des valeurs américaines. Donc on est dans cet état d'esprit à ce moment-là, c'est-à-dire les mauvais jours sont derrière nous et on a un nouvel âge d'or qui commence.
Marjorie Paillon.
Parfaite transition, mais c'est là d'où vient tout le malentendu finalement sur un Barack Obama candidat puis un Barack Obama président. C'est une chose d'avoir été un candidat d'une qualité et d'une fascination absolue. D'ailleurs, il faut le reconnaître, nous-mêmes médias, on a été totalement fascinés par ce candidat parce que à un moment donné, il a su driver un enthousiasme absolument exceptionnel autour de sa candidature et surtout faire entrer chaque futur électeur, chaque supporter dans une véritable histoire collective en construction. C'est ça le véritable miracle de la campagne de Barack Obama. Faire entrer encore une fois tous ses supporters dans cette histoire, dans cette expérience politique, dans ce mode de vie américain, cet autre, et Frédéric va détester ce mot-là, storytelling d'une Amérique à construire et à reconstruire ensemble. Mais encore une fois, je parle de malentendu parce que il a aussi suscité d'énormes espoirs. D'ailleurs, si un candidat ne suscite pas l'espoir, il a peu de chances d'être élu. Jusque-là, on est d'accord. Mais cet espoir, il est allé au-delà des frontières des États-Unis. Or, Barack Obama a toujours été candidat pour la présidence des États-Unis d'Amérique, pas pour la présidence du monde. On y reviendra tout à l'heure avec
notamment
l'affaire du prix Nobel de la paix. Mais oui, mais c'est justement par de là, en fait, en suscitant autant d'espoir dès la première candidature en 2008, forcément, c'est un président qui ne pouvait que décevoir au bout de 8 années de mandat. C'est mathématique.
Alors là, on est encore au tout début. Je vous propose de l'écouter. C'est le 18 mars 2008 à Philadelphie, pendant la campagne, lorsque une polémique éclate à propos de son pasteur protestant. Et Barack Obama décide de répondre à cette polémique en affrontant directement, clairement, franchement, la question de la race dans un discours qui a fait date. Écoutez.
I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas. I was raised with the help of a white grandfather who survived a depression to serve in Patton's army during World War II, and a wild white grandmother who worked on a bomber assembly line at Fort Leavenworth while he was overseas. I am married to a black American who carries within her the blood of slaves and slave owners, an inheritance we pass on to our two precious daughters. For as long as I live, I will never forget that in no other country on earth is my story even possible?
Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais que nul autre pays au monde n'aurait rendu mon histoire possible, disait Barack Obama à l'instant, en 2008, durant la campagne présidentielle. Je suis le fils d'un homme noir du Kenya et d'une femme blanche du Kansas. J'étais en partie élevé par un grand-père blanc qui a survécu la Grande Dépression pour aller servir dans l'armée de Peyton lors de la Deuxième Guerre mondiale et durant son éloignement outre-mer par une grand-mère blanche qui était ouvrière à la chaîne dans une usine de bombardiers à Fort Leavenworth. J'ai épousé une noire américaine qui porte en elle le sang des esclaves et de leur maître, héritage que nous avons transmis à nos deux filles chéries, disait aussi Barack Obama. Rokeya Diallo, le rôle de son épouse est aussi très important et il personnalise énormément durant sa campagne, dans ses livres, le soir même de sa victoire, autour de sa vie d'homme noir qui a épousé Michelle Obama.
Effectivement, il se place dès le départ comme un symbole en fait de cette Amérique qu'il a vocation à vouloir réconcilier, en expliquant qu'effectivement il est un homme qui se considère comme noir puisqu'il a dans le recensement coché la case African American, et en même temps qu'il a été élevé par des blancs puisque son père l'a quitté très très tôt. Enfin, il est reparti au Kenya très tôt, et puis il a été élevé par ses grands-parents, par sa mère, et donc. C'est intéressant parce qu'il n'est pas directement issu de l'histoire des droits civiques américains, il n'est pas descendant d'esclaves, donc il n'incarne pas d'une certaine manière cette culpabilité que peut ressentir une partie de la population.
Alors que sa femme l'est, il le
américaine.
Dit là.
Et c'est sa femme qui lui permet justement de gagner une forme de crédibilité vis-à-vis des Afro-Américains, puisque beaucoup d'Afro-Américains, dont le révérend Jesse Jackson, avaient été assez critiques vis-à-vis de lui, en expliquant qu'il n'était pas vraiment un noir américain, qu'il était plutôt un blanc, puisqu'il avait été élevé par des blancs, et qu'il était le fils d'un Africain. Et le fait d'avoir une femme Afro-Américaine issue de Chicago, issue d'une famille africaine-américaine dont la famille a vécu la ségrégation et l'esclavage, ça a contribué à lui offrir du crédit par rapport à la population africaine-américaine. Et en fait, à lui seul, avec sa famille, il incarne vraiment cette Amérique qu'il proclame comme étant multiculturelle et multiraciale.
Marjorie Pagnon.
Alors, une des raisons pour lesquelles Barack Obama prononce d'ailleurs ce discours en pleine campagne, il faut quand même s'en souvenir, c'est parce qu'en effet, il y a une énorme politique autour de ce pasteur,
polémique
autour de ce pasteur qui a eu des propos extrêmement durs, eu égard aux citoyens caucasiens et blancs américains
d'impossibilité
complètement.
D'intégration et d'assimilation.
Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, Barack Obama est obligé de revenir à cette question-là. L'autre chose, ce sera aussi, et cette image qui nous reste en tête, c'est aussi le soir même de la victoire, de cette première victoire de Barack Obama, Jesse Jackson en larmes à Chicago, en train de pleurer en se disant, on pensait tous que c'était impossible et pourtant il l'a fait.
Il l'a fait, hein.
Mais on y reviendra aussi tout à l'heure, c'est vrai que encore une fois, je vais employer le mot de malentendu parce que c'est un des dossiers sur lesquels Barack Obama devait réussir. Cette réunification finalement des peuples américains, du peuple américain, et sur lequel on le voit, il aura malheureusement échoué.
Pierre Mélandry.
Oui, il faut voir comment il fonctionne. Enfin, c'est assez remarquable. D'un côté, il condamne, il ne peut pas faire autrement, surtout avec le deuxième prénom qu'il a, Hussein. Le nom qu'il a, il dit en plaisantant, parfois on m'appelle Alabama, parfois Omama. Ça, c'est mes supporters, je vous dis pas comment m'appellent mes adversaires. Mais enfin, il lui faut absolument réagir. Et il condamne les propos incendiaires du pasteur pour deux raisons. Il les explique très bien. D'abord, parce que ses propos divisent au moment où il faudrait s'unir, et ensuite parce qu'ils sont faux, c'est-à-dire non pas qu'ils traduisent
le diagnostic
qui n'existe pas, mais qu'ils présentent l'Amérique,
voilà,
comme statique, alors que précisément c'est, et le discours est intitulé comme la Constitution, qu'il y a un progrès permanent vers une union plus parfaite, l'Amérique n'est pas statique. En même temps, et c'est le deuxième temps, il ne peut pas se couper de la communauté noire, et il explique que la colère du pasteur Wright, même s'il l'exprime de façon outrancière et inacceptable, est justifiée par un certain passé. C'est à ce moment-là, je crois qu'il cite Faulkner, une phrase qu'il aime beaucoup, « Le passé n'est ni mort ni enterré,
le passé n'est même pas passé.
Ouais. »
Phrase qu'adorait aussi Hannah Arendt, etc.
Et très habilement aussi, il explique, outre la colère des Noirs, la colère des blancs, des classes moyennes et ouvrières qui ont des raisons de se sentir frustrés. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que dès le discours, il annonce la Tea Party. Il explique comment on détourne la colère de ces gens, de l'irresponsabilité, la cupidité de Wall Street, de la corruption à Washington, vers les minorités, vers les Africains américains.
Pierre Aski.
Juste un mot sur Michelle Obama. Okay, Diallo insistait sur son rôle, effectivement, en interne. Il ne faut pas le sous-estimer en externe. C'est-à-dire, ça a été un atout de soft power pour les États-Unis, tel que les Chinois, par exemple, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, a modeler le personnage de la First Lady chinoise d'aujourd'hui, qui est une cantatrice, Peng Liyuan, qui est une femme extrêmement célèbre en Chine, mais exactement sur le même modèle que Michelle Obama, c'est-à-dire que la communication autour des voyages, y compris la robe qu'elle porte pour telle soirée de gala, etc., tout ça a été copié sur Michelle Obama, qui est devenue une manière d'être extrêmement particulière.
Ok, il y a Diallo sur Michelle Obama encore. C'est aussi une femme qui assume non seulement ses origines, elle assume aussi jusqu'à sa culture noire. Ça se voit dans son apparence, dans ses cheveux.
Dans ses cheveux, justement, elle a fait le choix justement de porter ses cheveux défrisés, ce qui, selon les commentaires de beaucoup de personnes, est un choix qui est destiné à ne pas présenter une image potentiellement offensive parce que le cheveu frisé, le cheveu crépus est historiquement associé aux Black Panthers, donc à des gens assez militants. Et comme c'est une femme assez forte, le fait qu'elle se présente avec le cheveu lisse, c'était aussi la garantie de ne pas donner le sentiment...
C'est pas Angela Davis.
C'est pas la fameuse Angry Black Woman, c'est un cliché qui est extrêmement présent dans la culture américaine, donc la femme noire en colère d'une femme qui serait extrêmement agressive. Et puis ce que je trouve intéressant aussi avec la famille Obama, parce que tout le monde est cité hein, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'ils vont à l'encontre des clichés sur les familles africaines-américaines. C'est-à-dire que on a dans l'inconscient collectif américain, dans l'imaginaire collectif américain, l'image des familles afro-américaines déstructurées, avec souvent un père absent et une mère en fait très puissante, très méchante souvent, qui est à la tête d'une famille qui n'est pas structurée. Et là, au contraire, on a deux parents très présents, deux filles qui viennent défier en fait ces clichés, parce que finalement, les images de familles entièrement noires, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une réussite sociale, les personnes qui ne sont pas blanches font leur vie avec des personnes qui sont blanches. C'est souvent ce qui arrive sociologiquement, ça a été démontré plus souvent. Et de montrer une image d'amour noir, ce que les Américains appellent black love, c'est quelque chose d'inédit et qui, quelque part, est très réconfortant par rapport à l'idée qu'on se fait de la famille africaine-américaine.
En juin 2009, Barack Obama arrive au Caire, en Égypte. Il est président depuis quelques semaines et il prononce l'un des plus importants discours de sa présidence pour engager la réconciliation avec les musulmans après les années Bush. Écoutez-le, Obama dit merci et bonjour en arabe, shukran, salam alaikum. Il rappelle qu'il est chrétien mais aussi le fils d'un père kényan qui est l'héritier d'une longue tradition musulmane. Enfant, en Indonésie, il entendait l'appel à la prière, azan, dit-il, et qu'il a donc connu l'islam sur trois continents, ce qui a forgé chez lui la conviction que les relations entre les États-Unis et l'islam devaient être basées sur ce qu'est l'islam et non sur ce qu'il n'est pas. Barack Obama.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Thank you. Thank you. I am honored to be in the timeless city of Cairo. Assalamu alaikum. I'm a Christian. But my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azan at the break of dawn and at the fall of dusk. So I have known Islam on three continents. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.
Je considère comme faisant partie de ma responsabilité, dit encore Barack Obama, en tant que président des États-Unis, de lutter contre les préjugés négatifs sur l'islam. Pierre Mélandry, des paroles justes, mais qui marquent un tournant sans s'être traduit depuis réellement par une solution.
C'est tout le problème de ce discours.
Et donc une déception.
Qui est un grand discours, mais ça c'est un peu une illusion qu'on peut changer de choses. Il le dit lui-même d'ailleurs. Dans le discours, à un moment, il explique qu'il ne fait pas trop d'illusions, qu'on ne peut pas changer des décennies de relations par un simple discours. Mais il faut voir quand même que ça intervient, ça a été dit tout à l'heure, à un moment où l'image des États-Unis est extraordinairement dégradée, en particulier dans le monde musulman, et c'est un effort tout à fait justifié pour essayer de la redresser. Il rappelle au fond que lui-même est très lié au monde musulman. Il explique qu'il a connu le monde musulman sur trois continents. Il rappelle que sa famille est en partie musulmane. Et il rappelle même qu'il y a des liens entre les États-Unis et l'islam. Il évoque
en matière culturelle,
le Coran,
en matière l'algèbre.
Que tenait Jefferson dans sa bibliothèque personnelle.
Il cite le Coran dans ce discours.
Et il le cite, oui. Il le cite, je me rappelle bien, c'est à la fin, en même temps que le Talmud et que la Bible, pour montrer l'universalité des grandes valeurs religieuses et, au fond, l'unité de l'humanité. C'est cela son but.
Écoutez-le citer l'islam, il est traduit.
Comme nous le dit le Coran, sois conscient de Dieu et dis toujours la vérité.
Un président américain citant le Coran, Pieraski.
Ce qui est très étonnant quand on regarde la chronologie, c'est que ce discours est donc prononcé en 2008 et il il a l'air d'annoncer une nouvelle ère dans le, en 2009, pardon, et il a l'air d'annoncer une nouvelle ère dans le, les relations entre les États-Unis et le monde musulman. Sauf que deux ans après, la vague des révolutions arabes intervient et change complètement la donne. Et Barack
et
Obama.
Et toute sa présidence, on va voir la montée en puissance de l'organisation État islamique. On va avoir.
Et il se retrouve avec ce dilemme très peu de temps finalement après avoir tendu cette main au Caire, le dilemme de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Moubarak. Quand Moubarak est menacé par la rue, par la place Tahrir, par la révolution égyptienne,
il lui demande de partir
et là on a un engrenage dans lequel la politique de Barack Obama vis-à-vis du monde musulman est complètement désarçonnée et il ne retrouvera plus ses bases jusqu'à l'accord avec l'Iran, qui est le seul moyen de reconnecter avec finalement l'état d'esprit du discours du Caire.
Et Marjorie Payon, c'est à ce moment-là aussi où il reçoit le prix Nobel.
Oui, absolument. Alors, on va venir sur le prix Nobel. Après, je reviendrai justement sur cette question très intéressante de ces printemps arabes et du rôle de l'administration Obama vis-à-vis notamment de son soft power numérique à ce moment-là. Mais le discours du Caire, il intervient 6 mois avant que Barack Obama ne reçoive en effet ce prix Nobel de la paix qui lui est décerné le 9 octobre 2009 pour être très précis, je cite le comité Nobel, pour ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationale entre les peuples. Mais c'est un cadeau totalement empoisonné, ce prix Nobel, parce que d'abord, ça va lui valoir les foudres absolues du Parti républicain sur le sol américain, et puis une obligation de résultat diplomatique qu'il ne pourra jamais tenir sur ses 8 années de mandat. Au-delà de ça, il y a quelques mois maintenant, un des présidents du comité Nobel a regretté avoir décerné ce prix Nobel de la paix à Barack Obama, en se rendant compte, en effet, de toute la pression que ça mettait sur sa présidence.
C'est pour ça qu'ils viennent de le refaire au président colombien.
Voilà, exactement. Je pense que ce comité Nobel a vraiment du pif, si j'ose dire. Au-delà de ça, vraiment, ces questions de soft power, notamment sur les printemps arabes, sont très intéressantes. On sait que l'administration Obama, et notamment le secrétariat d'État, à l'époque sous l'égide d'Hillary Clinton, a travaillé très étroitement, notamment avec Twitter et avec Google à l'époque, pour que les diasporas, des jeunes justement, j'allais dire révolutionnaires ou en tout cas citoyens de ces pays arabes qui souhaitaient un changement clair et net de politique chez eux, puissent continuer à tweeter, à parler et justement à réussir à communiquer. Donc, on voit que d'un côté, il y a eu en effet une position très compliquée à tenir pour le président Obama, mais que son soft power numérique a agi en sous-main.
Quand nous avons été face à l'impossible, des générations d'Américains ont répondu : oui, nous pouvons.
Yes, we can. We will remember that there is something happening in America, that we are one people.
Nous nous souviendrons que quelque chose se passe en Amérique. Nous sommes un peuple, une nation. Et ensemble, nous allons commencer le prochain grand chapitre de l'histoire américaine avec 3 mots qui résonneront d'est en ouest. Oui, nous pouvons.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. That we are one people, that we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can.
Voilà un extrait du célèbre discours dit Yes We Can, prononcé à Nashua, c'est dans le New Hampshire. C'était le 8 janvier 2008, durant la campagne des primaires, que Barack Obama a gagné face à Hillary Clinton, suivi de la chanson de Will I Am, des Black Eyed Peas, sur France Culture. Donc, dans cette émission spéciale ce soir, nos années Obama.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Voilà, Barack Obama qui chante. France Culture en direct, pratiquement 19h30. Nous sommes avec Pierre Mélandry, ancien professeur d'université à Sciences Po Paris, auteur de Le siècle américain, une histoire, à paraître le 20 octobre chez Perrin. Rokhaya Diallo, essayiste, animatrice de BIT, Black Entertainment Television, Marjorie Payon de France 24, Pierre Aski de l'Obs. Deuxième partie de cette émission, après avoir évoqué la victoire, hein, 2008, l'entrée à la Maison Blanche en 2009. Première séquence de fond sur la culture. Barack Obama, président culturel, à la fois président glamour et président qui a des ambitions culturelles. Peut-être Pierre Mélandry, dans un lien avec ce Yes Weekend qu'on a entendu à l'instant.
Oui, plutôt la culture politique dans ce qu'elle a. Je crois qu'il résume, et c'est un coup de génie en trois mots, précisément cette culture de l'espoir. Au fond, s'inscrivant, on a parlé tout à l'heure, dans la tradition d'un Lincoln, hein, qui à Gettysburg promet que cette nation reconnaîtra une nouvelle naissance dans la liberté. Roosevelt qui dit la seule chose dont nous irons à craindre, c'est la crainte elle-même. Reagan qui dit
la peur de la peur.
La peur de la peur. Deux siècles d'histoire devraient nous avoir appris qu'impossible n'existe pas. Ce sentiment qu'impossible est pas plus américain que français, qu'il suffit de croire pour retrouver l'espoir. Et c'est cela qu'exprime Obama en invoquant, et c'est là où c'est tout à fait intéressant, l'histoire. C'est-à-dire montrer que à chaque occasion où les États-Unis ont été en difficulté, ils ont réussi à remonter la pente, ils ont réussi à en triompher. Et il ne faut pas oublier que ça a un impact direct sur lui. Il vient de concéder une défaite face à Madame Clinton. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, car ce qui est en train d'arriver, c'est précisément ce dont nous parlions tout à l'heure, le changement d'Amérique. Le changement est en marche, et c'est cette grande rhétorique américaine du changement, de l'espoir, de la révolution permanente, de l'appel de la liberté qui continue de résonner.
Alors Yes Weekend, culture politique, mais c'est aussi le président, Rokhaya Diallo, de la pop culture.
Tout à fait, c'est un président qui met en avant une culture très populaire, donc ce qui le rend relativement accessible. Il faut rappeler qu'Obama, c'est quand même le premier président hip-hop de l'histoire des États-Unis. Le hip-hop est né en 1973-74, selon les écoles. Et donc c'est quelqu'un qui a grandi au son de cette musique, de cette culture qui est née dans le Bronx. Donc il arrive avec cette force de cette culture-là, qui est devenue une des cultures dominantes américaines. Et c'est quelque chose qu'on ressent très très fortement dans la manière dans les artistes auxquels il fait appel pour ces différentes...
D'abord, les artistes le soutiennent, hein, de John Baez à Frank Gehry, Philip Glass, Martin Scorsese et Steven Spielberg à R.A.M. Tout le monde est là pendant la campagne.
Bruce Springsteen. Son artiste toutes les favori. Générations, des tendances assez différentes. Et moi, je trouve que ces décalages étaient très, très bien incarnés le jour où François Hollande a rendu visite à Barack Obama. Et pour le dîner, en fait, il a sollicité Mary J. Blige, qui est la reine du R&B américain. Et c'était assez drôle de voir François Hollande, en fait, face à une artiste vraiment
qui connaissait pas, sans doute.
Et il ne savait pas quoi faire de son corps. C'était vraiment, il était face à quelque chose qui était complètement de l'ordre du choc culturel. Et Barack Obama était capable de mobiliser cette culture populaire à plusieurs endroits. Je me souviens aussi cette année en 2016, pour la Saint-Valentin, il est allé dans le show de Ellen DeGeneres pour chanter une chanson et redéclarer son amour à Michelle Obama. Donc il est capable d'entrer quelque part dans le quotidien des Américains à travers la culture populaire.
Alors je vous propose justement de l'écouter. C'est quelque chose d'assez étrange. C'est Barack Obama qui va être interviewé. C'est sur CNN. Le 18 décembre 2009, juste avant Noël, par Gloria Estefan. Écoutez bien.
Mr. President, this year more than ever, people need to help each other. If you had the power to grant our country one holiday wish, what would it be?
My biggest Christmas wish is that we can get this economy moving again and put people back to work. And obviously that's particularly important in the Latino community because unemployment has been worse in that sector. Construction, which was such a big employer, has really declined significantly. And that's why through the Recovery Act, we've been really emphasizing investment in infrastructure, extending unemployment insurance so that people can get help. Those are some things I've got under my control, and I'm going to be working as hard as I can to see if we can deliver on that Christmas present.
Voilà, cet entretien illustre finalement bien la stratégie de communication de Barack Obama. Il accepte donc la veille de Noël, on est le 18 décembre 2009, en pleine crise économique, de donner une interview à CNN, mais il se fait interroger par la chanteuse hispanique Gloria Estefan. C'est quand même assez étrange, mais en fait il s'adresse indirectement, même directement, aux latinos. Quel serait le vœu de Noël que vous adresseriez au peuple américain? américain, lui demande la chanteuse, et il répond que l'économie se remet en marche et que les gens retrouvent du travail. Et puis évidemment, il n'oublie pas ce qu'il est, président des États-Unis, et il dit, et c'est particulièrement essentiel pour les Latinos, dit Obama, et détaille son programme en matière d'investissement, de lutte en faveur de l'emploi et pour une meilleure assurance chômage. Tel est le cadeau de Noël que j'aimerais offrir, conclut Obama. Formidable président communicant, Pierre Aski.
Oui, je pense que c'est sans doute l'une de ses qualités les plus importantes. Il a su, depuis le premier jour, pour se faire élire et ensuite comme président, utiliser notamment par tous les canaux
les
possibles,
médias, les artistes,
aussi bien les réseaux sociaux que ses interlocuteurs, que le réseau
une
des artistes.
Une playlist sur Spotify.
Mais cet été encore, c'était incroyable. Et d'ailleurs, parfois, il y a des petits clashs d'images qui sont mal gérés. Mais au moment où les bombardements russes avaient lieu en Syrie, lui, il était Martin's Vineyard et il rendait public.
Les îles.
La résidence d'été où il va chaque année, et il rendait public sa playlist sur Spotify. Donc il y avait un petit décalage là qui n'était pas forcément heureux, mais en tout cas, ça fait partie, je pense, du talent extraordinaire de chef d'orchestre d'Obama, pour le meilleur souvent, c'est-à-dire, là, y compris là dans ce moment dont on parlait, qui est la sortie de la crise économique. Quand même, il a eu un héritage au moment où il est arrivé à la Maison Blanche.
À la fois militaire, mais aussi économique.
Il y a eu la crise des subprimes, les gens qui perdaient leur maison. Et donc, il y avait
le côté
une
Roosevelt,
nécessité de remonter le moral des gens et de leur redonner espoir dans le rêve américain.
Et je voulais aussi rappeler que Michelle Obama participe à cette présence dans la pop culture. Quand elle apparaît dans le dernier épisode de la série Parks and Recreation, c'est une manière de rentrer dans... En plus, c'est une sitcom, c'est une série humoristique. Barack Obama, quand il participe à une émission d'aventure, de télé-réalité, c'est une autre manière de se mettre en scène différemment. Quand il fait une interview avec des youtubeurs, c'est aussi une manière de parler à une jeune génération. Et quand il fait le choix d'aller aussi parler à des journalistes, non pas des journalistes, mais justement de répondre à des questions d'humoristes sur Funny or Die. C'est aussi un biais risqué, hein, parce que c'est pas évident quand on est un homme politique de répondre à des personnes dans le rôle et de faire rire, mais c'est une manière de se rendre populaire et sympathique.
Alors rappelons quand même qu'Obama donc ami des artistes, ami du glamour, on retrouve le glamour des années Kennedy, mais on pourrait presque dire la politique culturelle en moins, parce que pour le coup, certes il nomme la tête de l'agence, la seule agence culturelle américaine, le National Endowment for the Arts, un certain Rocco Landesman, connu comme grand producteur de Broadway, il a fait The Producer ou Big River, il possède 5 théâtres, donc là, un chairman, un président d'agence relativement puissant, mais qui ne va pas faire grand-chose, qui sera remplacé très vite par Jane Chu, une femme chinoise-américaine pianiste, mais en même temps, sur la durée, on voit que la politique réelle, la politique publique, la politique artistique est assez, comment dire, sans inspiration et ne laissera aucune trace, alors que Roosevelt, même Kennedy, même Johnson, peut-être même Jimmy Carter, ont eu, eux, une politique culturelle. Donc, président glamour, mais président pas forcément de politique publique culturelle.
Et ce qui est aussi très intéressant en termes d'imagerie politique, c'est que un des artistes qui va très rapidement rallier la cause Obama dès la campagne des primaires de 2007, c'est Shepard Fairey. Shepard Fairey, son nom d'artiste, c'est Obidjan. C'est le fameux artiste qui va populariser les affiches Hope. Vraiment, l'espoir.
Avec ces couleurs
absolument,
rouges
avec
et noires
ces couleurs
formidables, magnifiques.
On a quasi l'impression que c'est un filtre Instagram qui balbutiait à
avant
l'époque.
Avant même
Instagram. Mais qui vient du coup sublimer aussi cette image politique et cet engouement, encore une fois, pour ce candidat. Sauf que Shepard Fairey Obidjiant, c'est aussi l'artiste d'Occupy Wall Street. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir
une
comment...
Une espèce de court-circuit qui ne va pas se faire.
Totalement. Comment est-ce qu'à un moment donné, cette pop culture, ces artistes américains venus de la rue, cette image justement aussi de la culture de la rue, va aider Obama dans son accession jusqu'à la Maison Blanche, et comment finalement ils vont essayer de s'en détacher ensuite avec notamment ce mouvement qui célèbre les 99% d'Américains les moins riches face aux 1% qui tient le pays, et finalement tenter de se réapproprier ce discours-là.
Et là, on a la transition facile avec notre troisième partie sur le numérique, où au fond, ce président si innovant, président 2.0, ce président digital tellement moderne, va quand même connaître ses ratés avec l'affaire Snowden, avec un certain nombre d'autres sujets dont on parle dans un instant.
Now, as the first couple takes their first dance as president and first lady of the United States, please welcome Beyoncé.
Thank you.
And life is like a song. Oh, yeah, yeah. At last, the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover.
Beyoncé chante At Last pour Obama lors de l'investiture d'Obama en janvier 2009. Hein. Pierre Aski, on aurait aimé, je ne sais pas, est-ce que François Hollande a fait ça? Est-ce que Donald Trump pourrait faire ça? C'était lors du gala officiel.
Personne d'autre ne peut faire ça.
Elle ouvre ainsi la première danse avec donc, la première dame au First Lady Dance. Ok, Diallo. Magnifique. Bah,
c'était, ouais, c'était très beau. Et puis c'était bien parce que c'est, enfin, Beyoncé, c'est vraiment une artiste planétaire, mondiale, qui parle à plusieurs générations, qui incarne justement cette Amérique d'aujourd'hui. Donc le fait d'avoir, s'être entourée de stars, mais pas seulement de Beyoncé. Moi, je pense à quelqu'un comme Michael Skolnick, qui est plutôt un homme de l'ombre, qui est producteur, mais qui est aussi un influenceur, un lobbyiste, qui a beaucoup, beaucoup utilisé les artistes pour influencer Obama, notamment sur les questions sociales. Donc c'est quelqu'un qui est très, très en contact avec cette dimension-là de la culture. Même s'il n'a pas eu d'acte culturel en fait fort, il a réussi à entretenir une image qui allait presque en opposition avec l'inaction culturelle de son mandat finalement. Oui. Ce qui va rester, en tout cas en termes de souvenirs, c'est le musée afro-américain qui a ouvert il y a 15 jours à Washington, pour lequel il a fait un discours, mais on n'aura pas beaucoup de souvenirs en fait de ces 8 ans.
Mais dont la construction avait été décidée
sous Bush. En 2003, sous Bush, effectivement. Donc voilà, mais c'est quand même lui qui a fait le discours, même si les deux Bush étaient présents aux côtés de son épouse.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
C'est même devenu une sonnerie de téléphone, ce Barack Obama en train de chanter. 19h42 en direct sur France Culture. Troisième partie de cette émission, Nos années Obama. On évoque maintenant le numérique, Pierre Aski. Au fond, du président digital, on le disait tout à l'heure, à l'affaire Snowden.
Oui, parce qu'en fait, on a les deux visages du numérique dans la période Obama. On a la montée en puissance extraordinaire de ces grandes entreprises américaines,
Google, Facebook,
à Uber, en passant par Amazon, etc. Avec d'ailleurs des passerelles très importantes, parce que des cadres très importants de l'administration se sont retrouvés, sont aujourd'hui vice-président d'Uber ou la conseillère économique de la Maison Blanche, qui est aujourd'hui en charge des négociations pour Google avec Bruxelles. Donc on a des relations assez incestueuses entre les grands patrons de la Silicon Valley et l'administration Obama. Et puis de l'autre côté, on a le président, on l'a su grâce à Edward Snowden et ses fuites, mais on a l'administration qui a généralisé la surveillance numérique. La NSA, donc la National Security Agency, est un empire hallucinant. Et tout ça s'est fait sous Obama, qui a refusé de la moindre grâce, la moindre clémence, que ce soit vis-à-vis de Chelsea Manning pour
de Julian Assange ou de Snowden,
fuites, WikiLeaks ou de Assange aujourd'hui, ou de
Snowden. Sur Assange, ça le concerne pas trop en matière judiciaire. C'est plus sur Edward Snowden qu'il a du coup un pouvoir ou pas.
Et Chelsea Manning.
Oui, Chelsea Manning.
Chelsea Manning.
Mais donc il refuse le pardon de façon obstinée. Il y a encore quelques semaines, en septembre, il a à nouveau refusé notamment le pardon pour Edward Snowden, et Chelsea Manning vient d'écrire depuis sa prison, pardon encore une fois, rejeté. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire. Encore une fois, je vais reparler de ce terme malentendu, puisque on a vu un candidat Obama, un président Obama extrêmement bon, utilisateur justement de toute cette communication politique en ligne, extrêmement précurseur aussi dans la façon dont il a su réinventer ce lien, cet engagement via le numérique avec ses concitoyens, et qui sur ces questions de liberté en ligne, de liberté fondamentale, là aussi se montre plus dur, plus difficile que ses prédécesseurs.
Donc le bad cop et le good cop. On écoute le good cop. C'est Barack Obama qui explique qu'il va essayer une nouvelle forme de communication grâce à Internet pour que les citoyens américains suivent en direct de la Maison Blanche la vie et la politique du président. Ça, c'est au début de son mandat. C'était en mars 2009.
Nous allons essayer quelque chose d'un peu différent cette fois. Nous allons utiliser Internet pour que vous puissiez tous venir à la Maison Blanche. C'est le président lui-même, sur le site de la présidence, qui explique le mode d'emploi de ce meeting du 21e siècle.
Voilà, c'était en mars 2009, traduit par nos confrères de France Inter. Pierre Mélandry, là encore, oui, grande innovation et déception.
Oui, là, il y a deux contradictions chez la politique d'Obama. Il y a celle qui vient d'être signalée, je souscris totalement, l'annonce de la grande transparence. Et puis, c'est le président qui a engagé le maximum de fuites contre les fonctionnaires, de poursuites contre les fonctionnaires auteurs de fuites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième contradiction, ça me paraît plutôt sur le plan intérieur. Au fond, c'est le président de la high-tech. Quand il arrive, ce sont ses firmes surtout qui le soutiennent. C'est l'homme de la modernité. Or, la high-tech, d'un certain sens, ça va à l'encontre de son projet intérieur. Bien sûr, Bill Gates nous explique dans The Road Ahead en 96 que désormais les consommateurs seront dotés du droit semi-divin de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. En réalité, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que d'abord, on n'est pas sûr que la high-tech ait énormément accru la productivité. C'est un procès qui reste en train. On verra bien dans 20 ans ce qu'ils vont en penser, mais un historien très sérieux, qui est Robert Gordon, a lancé l'idée qu'au fond, le temps de la grande productivité américaine était pour le moment loin. Il était surtout dans les années 40, 50, qui étaient dans nos années. On l'a vu d'ailleurs baisser ces derniers temps, la productivité baissée. Mais deux contradictions. D'un côté, la technologie détruit les emplois. C'est Instagram, 13 personnes contre Kodak, qui en avait 140 000. Et de l'autre, elle creuse les inégalités. Les 15 Américains les plus riches possèdent des firmes, effectivement, liées au numérique.
Nous voici en février 2016, donc au début de cette année. Et là, à l'occasion d'un hommage à Ray Charles, Obama monte sur scène à la Maison Blanche et se met à chanter avec la superstar Usher. Et bien sûr, il n'oublie pas la politique en disant, écoutez ce qu'il dit, depuis cette année, Michelle et moi, dit-il, avons réuni à la Maison Blanche la musique qui a façonné l'Amérique.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Michelle Obama.
Well, good evening, everybody, and welcome to the White House. Over the past 7 years, Michelle and I have set aside nights like this to honor the music that shaped America. Classical and country, blues and Broadway, gospel and Motown, the women of soul, and the sounds of the Civil Rights Movement.
Hey, Ma, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing all night. Gonna send you back to Arkansas right now. You don't do right. Come on, y'all. You don't do right.
Baby, shake that thing.
Baby, shake that thing.
Baby, shake that thing.
All right. Yeah.
On entend Barack Obama reprendre et se mettre à chanter lui-même, donc devant tout un parterre de stars, y compris d'ailleurs, on l'a dit, les patrons de Google, patrons de Facebook, et tous ces gens-là vont venir souvent à la Maison Blanche, mais ça ne fait pas une politique numérique totalement contrôlée, Marjorie Paillon.
Oui, parce que, alors, on va en revenir à ces liens peut-être un peu incestueux. En effet, notamment sur les donations de campagne. Les entreprises de la Silicon Valley ont été des énormes donateurs de campagne pour Barack Obama lors de ses deux campagnes présidentielles. Mais au-delà de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est en effet de voir que, alors que, comme le disait Pierre Aski tout à l'heure, les GAFA, les NATO étaient en train de se développer pendant sa présidence, à un moment donné, on a aussi affaire à une lutte des classes au sein de la Silicon Valley. C'est ce qu'on a vu un petit peu sur cette campagne des primaires démocrates de 2016. 2016, Bernie Sanders, candidat des travailleurs de la workforce vraiment de la Silicon Valley, contre une Hillary Clinton qui serait plutôt la candidate des VC, des investisseurs et des patrons de la Silicon Valley. C'est finalement un petit peu l'image aussi qu'aura Barack Obama au regard de ses 8 années de mandat, cette image finalement d'amis des patrons de la Silicon Valley et pas forcément l'allié des ouvriers de la force de travail de ce numérique. Au-delà de ça, c'est vrai que les liens auront été encore une fois un peu incestueux. Eric Schmidt, notamment, hein, le CEO de Google, maintenant Alphabet, avait été à un moment donné envisagé pour être nommé comme secrétaire d'État au commerce de l'administration Obama.
Voilà. Et a co-signé un livre avec Jared Cohen. Absolument. Qui avait travaillé au département d'État avec Hillary Clinton.
Et qu'il a recruté pour sa fondation Google. Chez Google.
Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved
us. On entend le président américain Barack Obama qui entonne le cantique chrétien Amazing Grace. C'était le 17 juin 2015, Rokhaya Diallo, en hommage à des victimes assassinées. Donc on voit la puissance de la musique, mais en même temps, en l'occurrence, c'est un hommage dans l'église Emmanuel African Methodist Episcopal de Charleston, en Caroline du Nord, où vient d'avoir eu lieu un terrible série d'assassinats.
Oui, un acte de terrorisme, hein, puisqu'il s'agissait d'un suprémaciste blanc qui a tué 9 personnes noires en indiquant qu'il avait la crainte de voir les noirs à la fois prendre en main le pays et puis s'en prendre aux femmes blanches. C'est le grand classique de la crainte de l'homme noir de l'histoire américaine. Ce que ça dit, en fait, c'est pour moi, ça symbolise beaucoup de choses. On a beaucoup attendu de Barack Obama qu'il mette fin aux crimes racistes, en tout cas aux violences racistes qu'éprouvent les Noirs quotidiennement aux États-Unis. Pour moi, Dylan Roof, qui était un très jeune homme, hein, je crois qu'il avait une petite 20aine d'années, il incarne cette partie de la population blanche qui a le sentiment, en fait, de perdre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a une catégorie de la population
qui vote
toujours
Donald
été...
Trump aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Donc, des hommes blancs qui a toujours été, en fait, dominante, qui a toujours eu de son côté, en fait, toutes les clés du pouvoir, qui était vraiment du bon côté de la barre, qui voit en fait entrer à la Maison Blanche non seulement un homme noir, mais aussi sa famille noire, et qui a le sentiment finalement que il n'y a plus de limite en fait à la progression possible des minorités. Et quelque part, Dylan Roof, en allant tuer ces personnes, montre de quelle manière en fait une partie de la population s'est sentie dépossédée du pouvoir dont elle pensait qu'elle lui était due de manière légitime et pour toujours. Et je crois que la recrudescence du racisme après l'élection d'Obama est le symbole en fait d'un racisme qui s'était tué et qui s'est réveillé derrière la crainte de la disparition d'une partie de la population blanche.
Alors pour ne pas terminer l'émission uniquement sur une note négative, peut-être l'un des plus beaux discours, en tout cas à mes yeux, l'un des plus beaux discours d'Obama a eu lieu à La Havane il y a quelques mois, c'était le 29 mars dernier. Ce jour-là, Obama explique que les cultures cubaines et états-uniennes se sont mélangées, que José Martí a écrit quelques-uns de ses livres les plus importants à New York, qu'Ernest Hemingway a élu domicile à Cuba où il a trouvé l'inspiration, dit le président durant ce discours majeur et qui restera sans doute dans l'histoire. Obama ajoute, nous avons un passé en commun, la pelota, dit Obama, et même si nos gouvernements sont des adversaires, nos peuples ont gardé des passions communes. À Miami comme à La Havane, ajoute le président américain, on a des lieux pour danser le cha-cha-cha, la salsa, ou manger du roparviera, et où l'on entonne Celia Cruz, Gloria Estefan, le reggaeton, ou le rappeur Pitbull, Barack Obama.
Over the years, our cultures have blended together. Just as Martí wrote some of his most famous words in New York, Ernest Hemingway made a home in Cuba and found inspiration in the waters of these shores. We share a national pastime, la pelota. And later today, our players will compete on the same Havana field that Jackie Robinson played on before he made his major league debut. So even as our governments became adversaries, our people continued to share these common passions, particularly as so many Cubans came to America. In Miami or Havana, you can find places to dance the cha-cha-cha or the salsa and eat ropa vieja. People in both of our countries have sung along with Celia Cruz or Gloria Estefan and now listen to reggaeton or Pitbull.
Barack Obama dans ce discours à Cuba le 22 mars dernier. Pour conclure chacun peut-être cette émission, au fond c'est une présidence en demi-teinte. D'un côté le prix Nobel de la paix, de l'autre la guerre durable en Syrie et la bataille d'Alep. Le discours du Caire et en même temps la montée en puissance durant la présidence Obama de l'organisation État islamique. La présidence post-black et de l'autre côté le mouvement Black Lives Matter qui vient lui rappeler les violences policières. La promesse de fermer Guantanamo et ce voyage à Cuba, où l'on ne parle pas de Guantanamo et pourtant réclamé par le gouvernement cubain. Gloria Estefan et la fiesta chaque semaine à la Maison Blanche. De l'autre côté, la montée en puissance de Donald Trump, candidat raciste et viscéralement anti-hispanique. Le président 2.0, on l'a dit, et de l'autre côté, Edward Snowden, Julian Assange, ou encore ses difficultés sur la vie privée liées à Internet. Comment vous voyez ce bilan, Pierre Mélandry, Soft Power,
Oui.
Smart Power?
Simplement sur le plan intérieur, je dirais que le bilan est quand même très largement positif. Il y a de grands échecs, il y a la loi sur l'immigration, il y a la loi sur les armes à feu, il y a surtout le creusement des inégalités qui était évoqué et qui a entraîné cette réaction populiste toujours plus exacerbée. Mais quand même, il faut voir ce que sont les bilans des présidents américains en termes intérieurs. Il n'y a guère que Franklin Delano Roosevelt, Lyndon Johnson et, à un certain point, Reagan, qui peuvent se vanter d'avoir un bilan qui pèsera autant, surtout si Mme Clinton est élue et que l'Obamacare est protégé contre les attaques incessantes qu'ont conduites contre lui.
Sur le soft power.
Alors là, c'est plus mitigé. Il faut voir que Obama a eu à gérer la fin du siècle américain. D'un côté, il ne pouvait pas le dire, parce que c'est très mal vu aux États-Unis de proclamer que les États-Unis ne sont plus exactement ce qu'ils étaient. Et de l'autre, il était bien obligé de tenir compte des limites du pays. Donc, il a décidé de rénover la politique étrangère en pratiquant le smart power, mélange de hard et de soft. Je dirais tout simplement deux choses. Smart, c'est ne pas être idiot, ne pas faire de bêtises, don't do stupid thing, donc être très prudent, travailler dans la retenue, et smart, c'est essayer de conjuguer au mieux tous les leviers d'influence dont jouissent les États-Unis, à savoir la diplomatie, le pouvoir économique, et aussi le pouvoir militaire, mais plutôt sous la forme stealth power, les drones et les opérations spéciales.
Please give our outstanding artists a big round of applause. My understanding is the party's not over. Sheila E. is going to keep on jamming a little bit. But thank you, everybody. Have a wonderful evening. God bless you.
Voilà, on danse ce soir sur France Culture. Pour terminer cette émission, c'était la Fiesta Latina, la Maison Blanche, en 2009, où Barack et Michelle Obama étaient entourés de Jennifer Lopez, Marc Anthony ou Gloria Estefan. Encore, le couple présidentiel a chanté et dansé jusqu'au petit matin. Des images positives pour une présidence qui s'achèvera en janvier prochain, après 8 années exceptionnelles. Nos années Obama, un mot chacun pour définir ce bilan, Pierre Aski?
Pour moi, c'est un président au soft power contrarié, parce qu'il aurait aimé être le président du soft power et non pas du hard power, mais pour ne pas faire de stupid thing comme on disait tout à l'heure, il a laissé dégénérer la guerre de Syrie et aujourd'hui c'est une tache sur son bilan absolument catastrophique.
Je n'aurai que des chiffres, même pas des mots. 50% d'opinion positive pour sa cote de popularité au sein du sol américain. C'était la même chose pour Ronald Reagan en 1988. À l'étranger, 77% d'opinion positive.
Voilà, le président de l'étranger, peut-être qu'il devrait être candidat en France finalement. Pour la présidentielle,
et
ça serait la solution. Rokhaya Diallo.
Je crois que c'est un président dont la présidence sera marquée par une forte charge symbolique. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de choses.
Président symbole.
Une présidence symbolique, mais qui reste quand même un président des États-Unis. Donc il a suscité un élan chez les peuples opprimés, mais qui ont oublié un moment qu'il défendait en premier lieu les intérêts de son pays, les États-Unis.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les quatre. Pierre Mélandry, spécialiste des États-Unis, qui publiera le 20 octobre aux éditions Perrin Le Siècle américain, une histoire. Merci à vous. Rokhaya Diallo, essayiste, animatrice de BET. Merci à Marjorie Paillon et à Pierre Aski pour les plus loin sur Obama, sa politique culturelle numérique et son soft power. Vous pouvez consulter articles, archives, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé soft power. Vous pouvez également vous abonner au podcast de soft power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes. Dimanche prochain, nous parlerons de la Colombie entre espoir de paix déçue et prix Nobel. à nouveau. Demain matin dans les matins de France Culture, entre 7h et 9h, Guillaume Erner recevra l'ancien ministre Robert Badinter à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort. Bonsoir à tous, bonne soirée, à l'écoute de notre chaîne.